Et si on ouvrait la Bible? Si un jour vous m'entendez vous encourager à ouvrir un autre livre que la Bible, posez-vous la question, est-ce que votre pasteur n'est pas en train de dévier? Il n'y a qu'un seul livre, c'est notre repère. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction tout à l'heure à la Sainte-Seine, la lecture de notre frère qui a repris, vous l'avez reconnu, le psaume 119, rappelant que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Une lumière aussi également à nos pieds. Et je sers ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Alors les fois précédentes, nous avons vu ce qu'était la sanctification du corps. Nous avons vu quoi également? La sanctification de l'âme. Et puis enfin, on a terminé avec la sanctification de l'esprit. Dimanche dernier, nous avons répondu à une question, comment sanctifier notre esprit? Aujourd'hui, j'ai à cœur que nous réfléchissions pas sur les circonstances, sur plutôt les conséquences produites par la pratique de la sanctification. Tout d'abord sur nous-mêmes, et puis aussi dans la vie, eh bien, d'autrui, dans la vie de ceux et de celles qui peuvent nous côtoyer. Alors commençons par regarder les conséquences de la pratique de la sanctification sur notre propre vie. C'est une interrogation, c'est une question. Je me suis engagé avec Christ. Et j'ai compris que le Seigneur, parce qu'il est saint, m'invite maintenant à pouvoir marcher sur le chemin de la sanctification. Pour ceux qui ne le savent pas, la sanctification, c'est ni plus ni moins le fait de se séparer, se mettre à part pour Dieu. C'est le fait de se purifier de toute souillure, de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est s'éloigner du mal et finalement s'efforcer, eh bien, de pouvoir poursuivre le bien. Tout cela, vous l'avez compris, mais c'était bien de rappeler ces évidences. C'est un certain Eliphaz, c'est l'un des amis de Job, qui a fait un jour un constat. En observant les gens autour de lui, il a dit un jour ce que nous retrouvons dans Job chapitre 4 et le verset 8. Job chapitre 4, le verset 8. Je vous laisse le temps de pouvoir chercher ce simple verset. Job chapitre 4 et le verset 8. Et cet homme va dire: pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent, quoi? Les fruits. C'est pourquoi, quelque part, l'apôtre Paul va affirmer la vérité suivante: ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Il y a des proverbes que l'on retrouve. Quand on sème la tempête, quand on sème le vent, qu'est-ce qu'on récolte? La tempête. Tout dans nos vies, nos faits et gestes, nos paroles, même nos pensées, sont quelque part une semence. Alors elle n'est pas physique, mais elle est bien présente. Une semence que nous semons dans notre propre vie et dont nous serons les premiers à en récolter les fruits. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi, ayant compris cette vérité spirituelle, nous avons choisi aujourd'hui de pouvoir semer dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits la semence de la sanctification. On a décidé ensemble de marcher, eh bien, sur la voie sainte, afin, en retour, de pouvoir, eh bien, produire des fruits excellents de sainteté, qui va par la suite, eh bien, avoir toutes sortes de conséquences bienfaisantes sur tout notre être. Et je voudrais, eh bien, vous donner quelques exemples de ces conséquences, eh bien, de la sanctification, du fruit de sainteté, eh bien, dans nos vies. Premièrement, eh bien, la pratique de la sanctification nous permet de demeurer dans la sainte présence de Dieu. Amen ou pas amen? Vous savez, je peux venir même ce matin et m'asseoir au beau milieu de cette église et ne pas pourtant être dans la présence, dans la sainte présence de Dieu. Être même étranger à la grande famille de Dieu. Mais pour, eh bien, demeurer dans la sainte présence de Dieu, nous avons besoin de pouvoir marcher, de pouvoir pratiquer la sanctification. David a compris cette réalité. D'ailleurs, il a exprimé un merveilleux psaume. Je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que oui. C'est le psaume chapitre 15. Il est tellement court, il n'y a que 5 versets à l'intérieur. Et c'est pour ça que je pense qu'on va lire tout le chapitre 15. Psaume chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 5. David a dit la chose suivante. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? On s'arrête juste là. David a une interrogation, un questionnement plus profond de son cœur. Il lève certainement la tête et il s'adresse à Dieu. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Quand il parle de la tente, il fait mention du tabernacle. Il n'avait pas, tout au moins son fils Salomon n'avait pas encore construit le temple de l'Éternel. Et nous, Dieu, à ce moment-là, avait choisi d'être dans cette tente d'assignation, ce tabernacle, dont je vous ai dit qu'on allait prochainement partager et détailler le sujet. Il fait mention de cette tente. Et il pose la question, mais qui demeurera sur ta montagne sainte? Il faut savoir que cette tente était placée sur une colline, et cette colline se trouvait à Jérusalem. Il pose cette question, et quand il parle de cette tente qui se trouve sous cette haute montagne, bien sûr, il fait mention de la présence de Dieu, de la sainte présence de Dieu. Et à cette question, lui-même apporte des réponses. Des exemples qui vont nous concerner. Et ça commence au verset 2. Psaume chapitre 15, verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité. Autrement dit, qui marche dans la droiture. Qui est carré dans les choses de la vie. Qui est carré, à plus forte raison, dans les choses spirituelles. Parce que de toute façon, si nous ne sommes pas fidèles dans les choses de la terre, nous ne pourrons pas, ne nous illusionnons pas, nous ne pourrons pas être fidèles dans les choses spirituelles. D'ailleurs, Jésus lui-même va dire, si vous n'êtes pas fidèle dans les choses de la vie, mais qui vous confiera les choses excellentes, les choses du ciel? Celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui pratique quoi? La justice. Et j'ai envie de préciser, sans tordre le texte, la justice de Dieu, pas la nôtre. Qui pratique la justice de Dieu. Mais vous l'avez compris, c'était tellement évident. Et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Que veut dire calomnier? Calomnier, c'est de dire des mensonges et dans le but de nuire. Le calomniateur, c'est le diable. Ça, on le sait très bien. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Il faut que ces paroles nous parlent. Il faut, excusez-moi l'expression, s'il le faut, que ces paroles nous dérangent. C'est alors que la parole de Dieu pourra produire son travail dans nos cœurs. Et si on peut se reconnaître au travers de ce qu'on vient de citer et laisser le Saint-Esprit nous émonder de l'intérieur, nous sommes heureux ce matin. Et on voit David qui ne peut s'empêcher de conclure ces quelques 5 versets que nous venons de lire en disant, avec une grande assurance, celui qui se conduit ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Il ne chancelle jamais. En tout cas, il explique que celui qui vit une telle démarche de sainteté, parce que vous l'avez compris, pratiquer toutes ces choses, tous ces exemples, c'est ni plus ni moins quelqu'un qui a décidé de marcher sur le chemin de la sanctification. Cet homme-là, cette femme-là, elle ne chancellera jamais. Elle sera inébranlable. Elle sera fin prêt lorsque Jésus-Christ reviendra sur les nuées, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Ce passage du psaume 15, on peut même le rapprocher d'un autre psaume, c'est le psaume 24. Je ne sais pas si celui-là aussi également vous le connaissez, qui est presque similaire à celui-là. Et étrangement, c'est encore David, le grand roi David, qui a écrit ce psaume 24. Et au travers de ce psaume 24, nous sommes renseignés encore sur d'autres conséquences que vont produire la pratique de la sanctification. Alors on lit juste les versets 3 à 5, psaume 24 du verset 3 à 5. Il repose encore sa question. Tellement elle est importante. Elle était importante pour lui, mais elle est importante pour nous, enfants de Dieu, nous, le peuple saint. Mais qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Parce qu'il sait, eh bien, et c'est la Bible qui le dit, c'est Jésus lui-même qui le dit, le père du mensonge, c'est le diable. Pas question de lui laisser même un iota dans nos vies. On refuse le mensonge et on marche dans la vérité. Celui qui ne livre pas son âme donc au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra alors, voilà l'une des conséquences, la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra la baraka de l'Éternel. Cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, cette bénédiction qui va perdurer jusque dans l'éternité, parce que lorsque Dieu bénit, il bénit un bien pour l'éternité. Mais il obtiendra également la miséricorde du Dieu de son salut. Le mot qui a été traduit par miséricorde se dit en hébreu tzedaka. Or, tzedaka ne veut pas dire seulement miséricorde. Il se traduit également par les mots justice, quoi encore, bonheur, salut, délivrance. Autant de grâces, autant de faveurs, autant de bénédictions, eh bien, que Dieu veut nous accorder, mais pourvu eh bien, que nous marchions sur le chemin de la sanctification. Premièrement, donc, la pratique de la sanctification nous permet de demeurer dans la sainte présence et cette sainte présence nous donne à être au bénéfice de toutes les bénédictions que eh bien, Dieu est capable de nous apporter. La pratique de la sanctification nous conduit également immanquablement vers notre destinée, vers notre Canaan céleste, vers le paradis de Dieu. Et c'est notre espérance. C'est ce que nous chérissons au plus profond de nos cœurs, aller un jour dans cette demeure que Dieu a préparée pour nous. Vous savez qu'on se retrouvera éternellement dans ce ciel de gloire. La Bible nous dit qu'on verra Dieu avec nos yeux. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le voir. La Bible dit que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Et on peut le comprendre, avec ce corps charnel, on serait désintégré, c'est bien le mot. Mais avec le corps glorieux que Dieu en réserve pour nous, relisez 1 Corinthiens chapitre 15, vous allez découvrir qu'il y a des choses extraordinaires et qui seront notre partage. En un clin d'œil, on sera transformé. Vous connaissez la version Joël aujourd'hui. Vous allez connaître la version Joël là-haut, céleste. Un corps glorieux. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 12, verset 3, ne le cherchez pas, c'est juste ce texte qui me vient à l'esprit à cet instant, que eh bien, nous brillerons comme la splendeur du ciel. Et pour ceux qui auront annoncé la justice de Dieu, ils brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et ne croyez pas que eh bien, cette bénédiction est réservée uniquement aux prédicateurs. Parce que je suis prédicateur aussi de la justice lorsque je partage de ma foi à ceux et celles qui m'entourent. Lorsque je suis un témoin fidèle de Jésus-Christ, je suis en train de proclamer la justice. Alors il y a une promesse qui nous est laissée. Eh bien, nous brillerons comme eh bien, l'éclat des étoiles. Mais c'est extraordinaire ça. Quel beau programme! Quel beau programme! On sera semblable à l'image de Jésus-Christ, afin qu'il soit en tout le premier, bien sûr. Telle est l'espérance du vrai croyant. C'est pourquoi Jean, dans l'une de ses épîtres, a dit, dans Jean, 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Frères et sœurs, le meilleur est encore devant nous. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. À qui ? À Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est pareil. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et voilà ce qui nous intéresse aussi au verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La présence de cette espérance dans nos cœurs nous poussera dès ici-bas, dès sur la terre, attendre vers cette sainte transformation en travaillant à purifier nos cœurs. Il y a la part de Dieu, on l'a lu à plusieurs reprises, à plusieurs dimanches, donc de suite. C'est vrai, Dieu se charge de sanctifier notre corps, notre âme et notre esprit, mais il y a quand même notre part, bien qu'infime. Parce que si nous ne voulons pas, vous savez, c'est le voleur qui force les portes. Et s'il ne peut pas entrer par la porte principale, il essaye par les fenêtres, il essaye même eh bien, par les brèches. Mais Jésus, ce n'est pas ça. Hein. La Bible dit que Jésus, tel un gentleman, excusez-moi l'expression, il frappe à notre porte. Et si on veut bien ouvrir, il intervient. Par contre, suivant eh bien, notre décision, eh bien, nous en subirons bien sûr les conséquences, bonnes ou mauvaises. Que Dieu nous aide à pouvoir nous sanctifier. Parce que notre espérance, elle n'est pas ici-bas. Vous voyez que les choses se dégradent. On entend eh bien, aux journaux télévisés que même des millions d'espèces sont en voie de disparition. La terre se dégrade. Il y a des gens qui espèrent eh bien, qu'il y aura un paradis sur terre. Mais c'est se tromper. Parce que la Bible dit qu'une première fois, la terre a été détruite par l'eau du déluge. La deuxième fois, ce sera radical, ce sera par le feu. Mais par contre, pour le peuple de Dieu, une nouvelle terre, des nouveaux cieux sont prévus. Alléluia, dans ce ciel de gloire. J'ai confiance en Dieu. Je n'ai pas confiance aux hommes. Comprenez-moi ce que je dis. J'ai plus confiance en Dieu qu'aux hommes. Sa parole, c'est la vérité. Et si nous arrivons encore à en douter, que ce soit par notre orgueil ou bien par de faux raisonnements, frères et sœurs, retrouvons bien cette pleine conviction que la parole, elle va s'accomplir tôt ou tard dans ses moindres détails. Et nous vous envoyons déjà bien quelques prophéties s'accomplir. Tout ce qui concernait le Seigneur Jésus s'est accompli à la lettre. À la lettre. À un moment donné, les soldats étaient prêts à déchirer la tunique du Seigneur. Mais ils ont dit non, on va la partager. On va la tirer au sort. Mais ça, c'est une prophétie de l'Ancien Testament qui le savait, ça. Dans les moindres détails. C'est impossible que ça ait été un calcul. Non, tout cela était prédit, a été annoncé et accompli à la lettre. Pour ça, le Seigneur, tranquillement sur la croix, a dit « Tout est accompli ». Allez, on referme la parenthèse. Regardons maintenant, je vois également le temps qui avance, regardons maintenant quelles sont les conséquences que va produire la pratique de notre sanctification sur la vie des autres. Ah, déjà, sur les frères et les sœurs. Je ne vous demande pas de regarder celui qui est à votre droite ou à votre gauche. Marchez déjà sur le chemin de la sanctification. Mais posons-nous la question. On me dit, mais qu'est-ce que cela peut apporter à mon frère, à ma sœur qui est à ma droite ou à ma gauche? C'est certain, ma manière de marcher avec Dieu a le pouvoir d'impacter les frères et les sœurs dans la foi. À les influencer, j'ai envie de dire. Les influencer, bien sûr, positivement. Un véritable frère, une véritable sœur amène toujours son frère, sa sœur vers le haut et jamais vers le bas. N'allez pas me dire autre chose. Si je suis un véritable frère ou une sœur pour mon frère, ma sœur, c'est toujours pour le bénir. C'est toujours pour se réjouir avec lui quand il a quelque chose à partager de joyeux. C'est Jésus qui le dit par la bouche de l'apôtre Paul. Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. On est capable, par notre façon de vivre, de pouvoir donner envie aux autres, créer la soif au-dedans d'eux. Et sans qu'on nous dise quelquefois, même sans parole, les gens disent « Waouh, tel frère !» J'ai eu des modèles comme cela dans ma tendre enfance. Quand je venais à l'église, il y avait des personnes qui m'inspiraient. Et on a envie d'aller à leur contact. Nos oreilles multiplient en volume, en surface, pour recevoir eh bien, tout ce qu'on peut recevoir de leur part. Il y a des hommes de Dieu qui ont marqué notre vie. J'ai deux exemples pour vous. Regardons par exemple la vie exemplaire de Jésus qui a profondément touché chacun de ses disciples. À commencer par l'apôtre Jean. Jean qui était un disciple au départ. Vous savez comment Jésus l'a appelé, lui et son frère au départ? Allez, aidez-moi. Fils du tonnerre. Ce sont les deux fils, les fils Boanerges, fils du tonnerre. Et quand Jésus donne un nom, il ne se trompe jamais. Et il faut croire que Jacques et Jean, au départ, eh bien, avaient démarré, c'est même pas au quart de tour. Ils démarraient très vite. D'ailleurs, on les voit à l'œuvre, qu'à un moment donné, eh bien, tout un village avait refusé eh bien, de pouvoir accueillir le Seigneur Jésus. Qui intervient, Jacques et Jean, pour se tourner vers le Seigneur et lui dire « Ne veux-tu pas qu'on commande ?» Comme on commande un sandwich, on va commander que le feu du ciel descende. Ne veux-tu pas qu'on commande le feu du ciel qui descende et qui consume tous les habitants de ce village, de Samarie? Et heureusement que le Seigneur, à ce moment-là, a sanctifié eh bien, ce qui avait besoin d'être sanctifié dans leur esprit. D'ailleurs, Jésus va leur dire, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Mais voyez-vous, ce même Jean, il a été transformé par la personne de Jésus. Il est resté 3 ans et demi aux côtés du Seigneur Jésus. excusez-moi, c'était la meilleure école biblique qu'il pouvait trouver. Les paroles déjà du Seigneur étaient extraordinaires, elles étaient esprit et vie. Mais même par les moindres détails, l'attention que Jésus avait pour chacun de ses disciples, les soins qu'il prodiguait pour chacun, alléluia, des disciples. Jamais ils ont été blessés, jamais ils ont été heurtés par le Seigneur Jésus. Oh, que j'aurais aimé physiquement vivre ces moments avec ses disciples. Mais notre consolation, c'est que nous avons mieux. Parce que Jésus, eh bien, nous l'avons maintenant dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Jean était littéralement transformé. On le constate, on le voit quand on lit tous ses écrits. Il a écrit beaucoup. Il a écrit beaucoup parce qu'il avait beaucoup à dire. Il ne pouvait pas rester insensible. Son cœur était rempli. Et rempli de quoi ? De l'amour de Dieu. On le voit au travers de l'évangile selon saint Jean. On le voit au travers de ses trois épîtres. Première épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean. Et le comble, c'est lui qui va fermer bien tout le canon biblique, puisque dans le livre de l'Apocalypse, c'est lui qui reçoit la révélation de l'Apocalypse. Et on comprend bien pourquoi les commentateurs reconnaissent que Jean était véritablement l'apôtre de l'amour. Jean 3,16 par exemple. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » C'est ce même Jean qui va citer dans sa première épître de Jean, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Car l'amour vient de Dieu. L'amour est Dieu. Ah, merci de l'avoir affiché sur le vidéoprojecteur. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons, n'a pas encore été ? Non, c'est pas sûr. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Il a été imprégné, il a été littéralement transformé par son contact. Finalement, Jésus a un impact. Sa marche de sainteté, parce qu'il n'y a aucune fraude qui est sortie de la bouche du Seigneur. C'est en cela qu'il est parfait. Nous sommes imparfaits. Moi, le premier. Et même la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais toutes les paroles abondantes que Jésus a apportées, c'est toujours des paroles de vie, des paroles guérissantes, des paroles qui ont fait du bien. Et à son contact, l'apôtre Jean a été transformé. Le deuxième exemple, c'est celui des chrétiens de Thessalonique. Et là, ça m'encourage avec vous à pouvoir lire ce passage, 1 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 6 et 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 6 et 9. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus, quoi ? Un modèle, on aurait pu dire un exemple. » Pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en faisant quoi ? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Les mêmes chrétiens de Thessalonique qui ont été impactés finalement par le ministère de l'apôtre Paul sont devenus à leur tour un modèle pour nombreux chrétiens de leur région. Et je prie Dieu pour que l'église d'Istres soit une église pilote, soit une église qui va bénir bien son entourage, une église exemplaire, une église à cause bien de sa marche dans la sanctification, puisse impacter, puisse influencer bien les frères et les sœurs bien des alentours. Parce qu'ils ont expérimenté une véritable repentance, une véritable conversion, parce qu'on en est rendu là. Il y en a, ils viennent au Seigneur sans passer par la repentance. C'est impossible. Ça va tenir à un moment donné, et après, à un moment donné, tout va se décoller. C'est du bricolage. Mais il y a des étapes à valider. Cette repentance qui nous permet d'être face à nous-mêmes et reconnaître, comme dit la Bible, que nous sommes pécheurs. Et à cause de cela, nous avons besoin de nous repentir, d'abandonner notre ancienne voie, de demander pardon au Seigneur. C'est ça la repentance. Pour que par la suite, nous puissions nous engager en passant par les eaux du baptême. De toute façon, lorsque nous nous baptisons, et par la suite, nous devons en rendre les fruits. C'est Jean-Baptiste qui a dit à ces chefs religieux, ces certains pharisiens qui venaient, et eux également, pour se faire baptiser. Et Jean-Baptiste va leur dire, mais vous venez comme cela. Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Mais on le voit bien, ces chrétiens de Thessalonique ont véritablement vécu cette repentance. Ils ont abandonné quoi ? Les idoles, on l'a lu ensemble. Ils ont rejeté de leur vie tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Ils n'ont pas fait des compromis. Ils disent, ça je garde, ça je garde pas, ça je garde, ça je garde pas, etc. Non, ça, tu comprends, Seigneur, ça, c'est... Non, non. Ce qui est blanc, c'est blanc. Et ce qui est black, c'est black. Pourquoi vous rigolez ? Ils sont devenus un modèle, un exemple à suivre parmi les chrétiens de leur région. Ils ont finalement eu un impact positif et spirituel sur leurs frères dans la foi. Quand l'apôtre Paul allait eh bien, un peu plus loin et voulait donner le témoignage eh bien, de l'église de Thessalonique, les gens disaient « Mais on sait, on a entendu parler. Nous aussi, on regarde le journal télévisé, on sait. » Ils savaient que quelque chose d'extraordinaire s'était passé. Plus notre conversion, plus notre repentance est profonde, plus les gens vont en voir les fruits. À commencer par les chrétiens. On sait quand on brille. Surtout lorsqu'on eh bien, demeure dans un contexte ténébreux. Le croyant qui se sanctifie ne cherche pas à attirer les regards sur lui pour montrer aux autres chrétiens qu'il se sanctifie. Le chrétien qui... Eh bien, qui se sanctifie, il n'est pas non plus un donneur de leçons. Vous savez, il y a des personnes comme ça. Hein, ils ont la science infuse parce qu'ils ont une certaine connaissance et voyant d'autres personnes commencent à cartonner, etc. C'est, écoute ce que je dis, tais-toi et suis-moi. Et c'est... Je vous l'ai déjà raconté, ces deux frères qui, bizarrement, au sortir d'un temps de jeûne et de prière qui a duré, il me semble, ils ont fait, je sais plus. Plusieurs dizaines de jours, je veux pas dire des bêtises. Et quand ils sont revenus à l'église, ils ont choisi de ne plus saluer aucun de leurs frères et sœurs, parce qu'ils se sentaient trop saints. Une seule personne pouvait eh bien avoir la joie de pouvoir les serrer la main, c'était le pasteur. Mais entre-temps, le pasteur, il a appris eh bien cette comédie. Et quand ils sont venus pour saluer le pasteur dit bah, « Tu ne salues pas tes frères et tes sœurs ?»« Ben moi non plus, je ne vous saluerai pas. » Vous savez, quand on sort d'un moment avec le Seigneur, quand on se sanctifie réellement, on devient humble. On se frappe la poitrine. On respecte le prochain, quel qu'il soit. Quand je comprends que le Seigneur qui était, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne sous la sainteté. Mais il était souvent avec les gens de mauvaise vie, puisqu'on l'a qualifié eh bien, de buveur et de mangeur. Voulons-nous être plus royalistes que le roi ? On a besoin de comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. On a besoin de vivre une vie authentique. Et on n'a rien à prouver à qui que ce soit, frères et sœurs. Restons en paix. Ne soyons pas dans l'agitation, mais vivons simplement notre foi. Et c'est ça qui va impacter les autres. Les gens n'ont pas besoin eh bien, d'être agressés par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Ils veulent juste voir le saint parfum de Jésus émaner de nos vies, de nos cœurs. Alors, bien sûr, donc la pratique de la sanctification aura un impact, c'est sûr et certain, sur nos frères et nos sœurs. Mais je voudrais terminer en disant aussi que eh bien, la pratique de la sanctification eh bien, a aussi un impact sur les incroyants. Sur ceux encore qui ne sont pas touchés par le Seigneur, ceux encore qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie, donc Christ est le bon berger. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 4, les versets 3 et 4. 1 Pierre chapitre 4, versets 3 et 4, c'est l'apôtre Pierre qui exprime ses paroles et il dit « C'est assez !» En effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, en marchant eh bien, selon les convoitises de notre cœur, en marchant dans l'ivrognerie, en marchant dans les excès du manger et du boire, et les idolâtries qui sont criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche ? Et à cause de cela, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous calomnient. Ils trouvent étrange. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Ne soyez pas surpris parce qu'ils vous trouvent étrange. Parce que tout le monde fait ceci ou cela et nous, nous ne le faisons pas. Parce que finalement, nous marchons à contre-courant de ce monde. Et je vous assure, quelque part, il faut un sacré courage. Et ça, c'est la grâce de Dieu. N'allons pas nous flatter, hein. C'est la grâce de Dieu. Et nous le faisons avec fierté. Combien de fois j'ai entendu « Mais Joël, tout le monde le fait !» Sauf toi. 1 collègue de travail m'a avoué un jour, bien plus tard, qu'il a été interpellé par ma foi, tout simplement parce qu'un jour, bien d'autres collègues de travail m'avaient questionné, me demandant si j'avais pas une copine. J'étais un célibataire bien avancé en âge. J'avais la trentaine, certainement plus de 35 ans. Et je me rappelle, on était en pause café et ils étaient entourés. J'ai l'impression que c'était un rendez-vous. Le diable n'était pas loin. Et ils m'ont posé la question, quoi ? Tu as tel âge ? Et t'as pas une copine avec toi, etc. Et je leur ai expliqué gentiment que j'attendais l'élu, j'attendais. Ma Dulcinée, elle n'est pas là ce matin. Et j'ai bien fait. Ce même collègue m'a avoué plus tard que ça l'a interpellé. Il a trouvé ça bizarre. Et les ados, ne soyez pas bouleversés quand vos copains de classe vont dire « Mais quoi, t'as pas ta copine ou t'as pas ton copain ?» Non. Et je vis très bien. Le soleil continue à se lever. On n'est pas des moutons de Panurge, on est les brebis du Seigneur. C'est différent. Moi, je ne cours pas après la mode. On parle du vent. On parlait du vent tout à l'heure. Il y a le vent de ce monde. Mais ce n'est pas ce vent-là qui m'intéresse. Sois dans le vent, Joël. Et puis, on a des habits même tout à fait bizarres, des trucs... Alors, pour le coup, nous, on trouve étranges certaines choses que les gens du monde font. Parce qu'on n'a pas le même esprit. Hein. Mais on est tranquille. Et moi, ce que je recherche, c'est le vent du Saint-Esprit. Parce que partout où il me mène, ce sera toujours pour me conduire au bon port. Pour la petite histoire, ce collègue qui a été interpellé par ma déclaration, plus tard il s'est converti, hein. Il s'est donné au Seigneur. On s'est encore au téléphone. Il a été bouleversé. L'influence que nous avons, quand nous restons fermes sur ce qu'est nos choix, et nos choix se sont portés sur ce que dit la parole de Dieu. Et tant pis si on nous calomnie. Tant pis. 1 Pierre chapitre 2, verset 12, toujours l'apôtre Pierre qui va dire la chose suivante. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Et vous avez compris derrière ce mot, derrière cette phrase, ayez au milieu des païens une bonne conduite, c'est comme si Pierre nous disait, marchez de sanctification en sanctification au milieu des païens. Oh Joël, c'est difficile aujourd'hui, hein, c'est pas évident, hein. Alors si c'est impossible pour toi, c'est parfaitement possible pour Dieu. Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas trouver d'argument lorsqu'on comparaîtra devant le Seigneur et quand Dieu nous demandera compte de cette vie sainte à laquelle il nous a appelés. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire que nous puissions mettre de l'ordre et séparer ce qui est bien de ce qui est précieux. Quand on est venu à Jésus, et je l'avais dit la dernière fois, notre esprit a été renouvelé et on comprend plus que jamais ce qui est bien et ce qui est mal. Et je ne veux pas être un chrétien qui arrive même à ligoter, même à tuer sa conscience. Quand on a perdu notre conscience, on n'est pas loin de faire naufrage par rapport à la foi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Pour ça, je le dis avec assurance. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, on retrouve encore ce terme, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il faut comprendre ce verset. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Il a dit pas, Pierre n'a pas dit, ayez une bonne église, un beau lieu de culte. On est content. Merci pour ceux et celles qui travaillent au nettoyage donc de la salle. Une fois je descends, je sens ce doux parfum. Les frères et sœurs sont passés par là. Que Dieu vous bénisse et vous rende toutes ces choses au centuple. Mais il n'est pas dit là ici, ayez au milieu des païens une bonne église, une belle église. Il n'est pas dit non plus d'avoir une bonne musique, une bonne louange. Il n'est pas dit non plus d'avoir de bonnes actions, actions sociales. C'est bien tout cela. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'est pas dit non plus d'avoir de bons prospectus. Et on pourrait rallonger la liste comme cela. Non, il est écrit « Ayons une bonne conduite », c'est-à-dire une vie sainte, remplie du Saint-Esprit. Une vie sainte qui est débordante de l'amour de Dieu. Voilà ce que les païens remarqueront et qui, en retour, leur donneront à pouvoir chercher à connaître le Dieu que nous servons avec fierté et avec joie. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je veux, en conclusion, terminer en récapitulant ce que nous avons vu ensemble. La pratique de la sanctification dans notre vie a le pouvoir non seulement d'influencer nos frères et nos sœurs, mais également les incroyants, les amis qui ne connaissent pas encore Dieu et que nous pouvons côtoyer au quotidien. Soyons, comme le dit l'apôtre Paul, ces lumières qui brillent comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie à ceux et celles qui pourraient nous entourer. Que nous soyons littéralement des poteaux indicateurs qui va leur montrer le chemin à suivre. Et le chemin qu'ils doivent suivre, ce n'est pas une religion, c'est une personne, c'est Jésus. Nous avons vu aussi que la pratique de la sanctification nous permet de demeurer dans la sainte présence de Dieu. Nous avons faim et soif de demeurer dans la sainte présence de Dieu. Et pour cela, nous avons tout intérêt à considérer ce qu'a dit l'auteur, alléluia, du livre d'Hébreux. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous avons vu également que la pratique de la sanctification nous comble des faveurs et des bénédictions de Dieu. Le Seigneur, il a un regard spécial sur ceux et celles de ses enfants qui s'appliquent jour après jour à pouvoir sanctification. C'est un travail de toute une vie. N'allez pas me dire à la fin de la réunion, moi j'ai fini ma sanctification. Hein. Quand on a fini de dire ça, on a besoin de comprendre que tout est à commencer au-dedans de nous, jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. C'est la grâce de Dieu qui va nous accompagner pour qu'au dernier souffle, nous soyons fin prêts pour décoller parce que rien n'a pu, rien de souillé ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Et enfin, lorsque nous pratiquons la sanctification, cela nous conforte dans l'espérance que nos yeux verront le Seigneur un jour et un jour imminent. Ainsi, toutes ces conséquences de la pratique de la sanctification ne peuvent que nous encourager les uns les autres à pouvoir persévérer dans cette marche de sainteté. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, que celui qui se sanctifie encore, que celui qui se purifie continue à le faire par la grâce de Dieu et bien sûr avec l'assistance du Saint-Esprit. Un dernier passage de Corinthiens chapitre 7, verset 1, et puis après nous allons prier ensemble. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. » Seigneur, ce matin, nous implorons le miracle du Saint-Esprit. Que lui-même puisse accompagner, conduire ces paroles que nous venons d'entendre de ta part et les déposer, mieux encore, les graver dans notre esprit, dans notre cœur. Bien souvent, Seigneur, nous recevons la semence de ta parole, mais quelquefois nous laissons les corbeaux spirituels venir picorer cette semence. Je te prie qu'elle ait ce matin dans nos vies une action bienfaisante pour chacune de nos vies. Seigneur, pardonne-nous pour nos relâchements dans ce travail de nettoyage, dans ce travail de purification. Seigneur, délivre-nous de tout faux raisonnement. Donne-nous, une fois pour toutes, à mettre au dehors de nos vies, de nos cœurs, ce qui n'est pas ta gloire. Seigneur, donne-nous ce courage, comme toi tu as eu ce courage, toi le prince de la vie, de pouvoir donner ta vie, de pouvoir mourir, de pouvoir accepter ces flagellations, ces crachats, ta créature, ta propre créature, entachée par le péché, Seigneur Père, t'as souillé, Seigneur Père éternel, par, Seigneur Père mon Dieu, leur crachat de calomnie, de moquerie. Tout cela, tu l'as fait par amour pour nous. Toi qui étais sans péché, tu t'es fait péché pour nous. Cet exemple-là nous sanctifie encore en ce matin. Donne-nous du sérieux dans nos vies de chaque jour. Aide-nous à mettre en règle nos vies. Seigneur, travaille nos cœurs. Ravive nos consciences et que nos consciences soient en connexion avec le Saint-Esprit. Et que nous soyons même dérangés dans notre sommeil pour que, enfin, nous puissions mettre, Seigneur Père, en règle ce qui a besoin d'être mis en règle. Que nous soyons dérangés dans nos vies, dans nos cœurs. Nous ne voudrions plus accepter le péché, aussi petit soit-il. Afin que, Seigneur, en retour, tu puisses, Seigneur, te manifester davantage parmi nous. Afin que cette Église puisse briller, puisse impacter, Seigneur, non seulement dans le milieu chrétien, mais aussi, Seigneur, et surtout parmi nos amis inconvertis, les membres de nos familles inconvertis encore, qui puissent voir, Seigneur Père, que nous brillons de l'intérieur de la personne de Jésus, qui est la lumière du monde. Bénis nos cœurs. Mets l'amour, mets la paix parmi nous. Je te le demande au nom de Jésus. Tu vois tout ce que l'ennemi a pu trafiquer. Tu vois, Seigneur Père éternel, tout ce qui peut être en latence, en sommeil. Seigneur, nous réveillons toutes ces choses et nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Sanctifie nos vies, sanctifie nos cœurs. Tu as dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Qu'il en soit ainsi ce matin, Seigneur. Merci, Jésus. Purifie, émonde. C'est toi qui ajoutes par le Saint-Esprit ceux et celles qui doivent, Seigneur Père, mon Dieu, composer ton Église. C'est toi qui retranches aussi également ce qui a besoin d'être retranché parmi nous, dans nos corps, dans nos vies, mais aussi parmi nous au nom de Jésus-Christ. Père, pour la gloire de ton nom. Amen.